Durant l'année scolaire 2025-2026, 25 élèves ont participé à un projet historique et mémoriel encadré par Nadia Mounir, Frédéric Margarito et Dimitri Vouzel. Le thème du projet était « Shoah et justice ». Le groupe a travaillé sur des archives locales et nationales et a participé à un voyage d'études qui les a menés d'Insert-SS-Sonderlager à Nuremberg, Mittelbau-Dora et Bergen-Belsen.
Le 26 février 1942, 11 juifs dijonnais sont arrêtés lors de la première rafle de Dijon. Ces arrestations se succèdent dans les départements de la Côte d'Or durant plus de 2 ans, jusqu'au 5 juillet 1944, lorsque Clarisse Veil est arrêtée et déportée. Au total, 150 juifs côte-doriens sont déportés. Seulement 4 reviennent à la fin de la guerre. Après la guerre, certains membres de leur famille ou les survivants eux-mêmes porte plainte contre les policiers français qui les ont livrés aux Allemands. Nous allons vous rapporter, grâce à des recherches aux archives, ce qui est arrivé à 3 familles, la famille Kahn, la famille Le Mansart et la famille Steinitz.
Je vais vous raconter l'histoire de Gilbert Kahn, l'un des 4 survivants, qui porte plainte à la fin de la guerre en écrivant une lettre à M. Moindreau où il lui demande d'agir pour lui contre ce monsieur qui lui a fait tant de mal. Un soir de février 1944, le jeune homme de 16 ans est interpellé par un policier du nom de Serge Garnier, sous-chef de police à Auxonne, chez la famille Seret où il travaillait. Monsieur et Madame Seret demandent la raison de cette arrestation. Le policier répond que son père l'envoie le chercher, comme le dit Gilbert Kahn dans sa lettre. Il vint un monsieur me chercher, disant que mon père me demandait. Malheureusement, cela est faux, et le lendemain, Gilbert Kahn est livré aux Allemands à Dijon. Il sera déporté à Auschwitz avec ses frères. Ces derniers ne survivront pas à la vie dans les camps. À la mi-octobre 1945, il décide de porter plainte contre monsieur Garnier. L'affaire sera saisie par le comité de libération de Dijon et sera classée sans suite malgré son témoignage et celui de monsieur Seret. Le 9 octobre 1942, Monsieur Le Mansart est arrêté par l'inspecteur de police Paul Geoffroy. Ce jour-là, Monsieur Geoffroy se rend au magasin de Monsieur Le Mansart où il demande à le voir. Monsieur Le Mansart dit qu'il ne connaît pas ce monsieur. Sur ce, Monsieur Geoffroy lui demande alors de présenter sa carte d'identité. Monsieur Le Mansart prétend alors ne pas l'avoir sur lui et va chercher celle de sa femme. L'inspecteur se rend tout de suite compte de la supercherie et arrête Monsieur Le Mansart qui prévoyait de s'enfuir par la fenêtre du premier étage. Le 11 octobre, Idèle Le Mansart est envoyé à Drancy avant d'être déporté à Auschwitz le 11 novembre de cette même année. Il n'en reviendra pas. À la fin de la guerre, sa femme, Madame Le Mansart, porte plainte contre Paul Geoffroy et demande des sanctions en conséquence de ses actions, comme elle le dit dans sa lettre où elle dénonce le policier qui a arrêté son mari. Je demande pour Monsieur Geoffroy les sanctions que mérite sa conduite. Monsieur Geoffroy se défendra en disant qu'il ignorait la raison de l'arrestation de Monsieur Le Mansart et en affirmant qu'il a toujours été un allié de la résistance. Ces propos seront confirmés par Monsieur Moreau, ancien résistant et membre du comité cantonal de libération de Dijon. L'inspecteur Paul Geoffroy ne sera jamais condamné malgré l'enquête en 1946.
Le 29 septembre 1944, Monsieur Steinitz écrit au président du comité de la libération pour porter plainte contre 2 policiers qui ont montré un zèle abusif en recherchant et arrêtant sa femme et sa fille lors d'une traque qui a duré de 7h du matin à midi. Le 13 juillet 1942, à 7h du matin, 2 policiers se présentent au domicile des Steinitz demandant à voir Madame et Mademoiselle Steinitz. Madame Steinitz leur ouvre affolée et leur apprend que sa fille est chez leur voisin, M. Marquet, qui, cachant Mademoiselle Steinitz, dit au policier qu'elle n'est pas chez lui. Madame Steinitz est alors emmenée au commissariat, tandis que Mademoiselle Steinitz continue d'être recherchée. Plusieurs connaissances de la famille Steinitz lui viendront alors en aide, telles que M. Marquet et M. Demaître, en prétendant ne pas savoir où elle se cache. Ils seront alors menacés par la police d'être arrêtés. Terrifiés, ils finiront par téléphoner au commissariat et révéleront que Mademoiselle Steinitz se trouvera chez Monsieur Adenau aux environs de midi. Madame et Mademoiselle Steinitz sont livrées aux Allemands et Monsieur Steinitz n'a plus aucune nouvelle d'elle. En novembre 1944, Monsieur Marquet et Monsieur Demaître témoignent de ces faits, mais les deux policiers ne seront pas sanctionnés ni poursuivis. Nous pouvons conclure de ces témoignages que malgré les plaintes et les procès, les familles des victimes ou les victimes ne seront jamais indemnisées ou ne verront jamais les personnes qui les ont arrêtées être condamnées par la justice. Néanmoins, notre travail sur ces dossiers a permis de les sauver de l'oubli et de les mettre en valeur grâce à ce podcast.
Réflexion, émotion, recueillement ont été les ressorts du projet. Au terme de celui-ci, les élèves et leurs enseignants sont désireux de continuer à promouvoir le devoir de connaissance. Nous tenons à remercier les institutions et les partenaires qui nous ont soutenus, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le Souvenir français, le ministère des Armées et Radio Shalom.